Quel est le plan secret des USA pour tuer l'Europe? Les correspondants suédois de Nya Dagelbladen ont publié un mémorandum secret de stratège associé à la Pentagon, Rand Corporation, daté de janvier 2022. Ce document de 3 pages révèle en détail le plan américain de destruction totale de l'économie européenne. Avec l'aide de l'Ukraine et l'attaque russe dans laquelle l'Allemagne et le gouvernement d'Olaf Scholz joueraient un rôle important. La raison de l'affaiblissement de Berlin, selon ce plan, devrait être l'arrêt des approvisionnements en gaz et pétrole russe. Une nouvelle catastrophe pétrochimique et métallurgique en Allemagne avec des pertes de 300 milliards d'euros. En conséquence, le chômage augmente avec la migration dans toute l'Europe, la fuite des cerveaux de l'Europe émigrant vers les États-Unis et Washington réalisant du coup un profit pouvant atteindre 9 milliards de dollars. Mais peut-on encore espérer qu'après cette publication occidentale, loin d'être la dernière en termes d'importance médiatique, l'Europe se réveille et comprenne enfin les véritables enjeux de ce grand jeu géopolitique qui se joue actuellement sous l'œil inattentif des Européens paniqués qui ne peuvent rien faire pour changer le cours des événements. Pour pouvoir répondre à cette dernière question, il faut avoir répondu à des questions de type détective, du genre « mais vraiment qui sont les principaux bénéficiaires de cette crise énergétique ?» Et ce n'est qu'en répondant à cette dernière question que l'on peut espérer, mais pas en vain, modifier cette rhétorique anti-russe extrêmement misanthrope créée artificiellement pour quelque chose d'un peu plus rationnel. Hélas, la réalité du terrain annonce une Europe qui s'effondre de l'intérieur à cause de cette négligence de la classe politique harnachée par les néoconservateurs américains de l'école de Chicago. C'est la Russie en 1991 qui considérait la guerre froide comme terminée et en Europe, de nombreux politiciens souriaient poliment, mais continuaient en même temps à se préparer à une nouvelle confrontation avec elle, a rappelé le membre du Parti communiste, le politicien Sergueï Netsyevski. Pas seulement parce que l'Europe, dans le contexte des événements politiques récents, a pris comme un signal une position russophobe. Après tout, nombre de ceux qui font la politique de l'Union européenne actuelle sont soit élevés directement dans les programmes éducatifs et politiques des États-Unis, soit sous la puissante influence de Washington. Les Suédois ont écrit quelque chose un peu correct. Tout le conflit actuel en Ukraine avec toutes les conséquences qui en découlent a été orchestré par les États-Unis, donc dès que l'Amérique le voudra, tout s'arrêtera. Mais on ne voit aucun prérequis pour cela. La Maison-Blanche profite de ce qui se passe. Après tout, l'Allemagne n'a pu construire l'Union européenne actuelle que principalement grâce aux ressources énergétiques bon marché de la Russie. Selon un expert européen, militairement parlant en Europe, la présence des Américains est considérablement plus importante dans un certain nombre de zones stratégiques que celle des Européens eux-mêmes. Les dirigeants de l'UE s'expriment de plus en plus sur la nécessité pour l'UE d'être un acteur plus indépendant sur la scène internationale. Mais ce sont surtout des anciens dirigeants de l'UE qui se partagent cette opinion. Et les responsables actuels abordent un tel sujet davantage à des fins populistes et de promotion. Les événements en Ukraine ont montré à quel point l'Europe est fragile et à quel point elle dépend des États-Unis. Cette situation a ouvert les yeux des Européens qui ont conclu qu'ils avaient besoin de leur propre protection et de leur indépendance stratégique. Des réflexions similaires ont été récemment exprimées par le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon Scholz, il est temps de créer une Union européenne plus forte et géopolitiquement souveraine. Il a également noté que les États-Unis sont désormais plus occupés à concurrencer la Chine dans la région Indo-Pacifique et que l'UE doit en profiter pour réfléchir à l'avenir de l'Europe. La théorie de la nécessité d'une Europe souveraine et forte est bien sûr très séduisante et semble à première vue bien réelle, puisque l'UE dispose de ressources humaines importantes et d'un PIB de 18 000 milliards de dollars et d'un budget de la défense de 200 milliards de dollars. Cependant, dans la pratique, cela conduira l'UE à s'éloigner des États-Unis avant de pouvoir devenir plus forte, a déclaré Bart Shevchik, ancien conseiller mondial du groupe de réflexion de la Commission européenne. Par conséquent, les pays de l'UE devront continuer à compter sur les États-Unis. Malgré toute sa puissance économique, note Shevchik, l'UE est loin, très loin derrière les États-Unis en termes de puissance militaire. Il est parfois très difficile pour les 27 pays de l'Union de se mettre d'accord sur des questions clés. L'UE n'a pas été en mesure de créer des forces armées unifiées sous un commandement unique et dans tous les conflits militaires dans lesquels les pays de l'UE ont été impliqués au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont toujours joué un rôle de premier plan. C'est Washington qui joue aujourd'hui un rôle de premier plan dans le soutien à l'Ukraine en fournissant à Kiev une assistance militaire d'un montant de plus de 10 milliards de dollars, tandis que l'aide de l'UE s'élève à 2,5 milliards de dollars. Sur le plan militaire, les Américains sont également nettement plus représentés dans un certain nombre de zones stratégiques en Europe que les Européens eux-mêmes. Dans ces conditions, cela n'a aucun sens de parler de renforcement de l'indépendance. Selon Shevchik, les dirigeants de l'UE pourraient faire plus sur le plan géopolitique, ce qui renforcerait leur statut, mais cela ne se produira pas. Des gens de l'UE tels que l'Allemagne, la France et l'Italie ont alloué ensemble moins d'aide à l'Ukraine que la Pologne, seul a noté l'expert. Le Royaume-Uni est en plein deuil royal, la livre chute au plus bas depuis 1985. Depuis janvier, la livre a perdu plus de 15% face au billet vert. Au-delà du coût des funérailles, l'économie britannique risque de pâtir de la période de deuil. La livre sterling aussi est en deuil. C'est un des effets collatéraux du séisme provoqué en Grande-Bretagne par le décès de la reine Elisabeth II, qui fragilise une économie déjà en crise. La monnaie britannique en perte de vitesse depuis le début de l'année face au dollar, a chuté de plus de 1% vendredi, miné par les craintes de récession. Au-delà du coût estimé entre 30 et 40 millions d'euros, des funérailles qui se déroulent lundi à l'abbaye de Westminster, l'économie risque de pâtir de la période de deuil de 12 jours et de la journée fériée accordée pour l'événement. Vendredi, c'est aussi la forte baisse des ventes de détail enregistrée en août après un léger rebond en juillet qui a affaibli la devise britannique. Les ventes ont reculé de 1,6% en rythme trois plus importants que les attentes des économistes. En cause, la crise du coût de la vie et de la spirale de l'inflation, moins 9,9% en août, liée à l'envolée des prix de l'énergie. Les données sur les ventes confirment notre point de vue que l'économie britannique est déjà en récession, a commenté Olivia Cross de Capital Economics. Depuis janvier, la livre a perdu plus de 15% face au billet vert, selon elle. La récente avancée ukrainienne a été planifiée depuis des mois par les USA qui ont fourni en temps réel aux forces de Kiev les informations sur les objectifs russes à frapper. C'est ce qu'a révélé le New York Times sur la base de sources officielles. Cela confirme que les forces de Kiev sont effectivement sous commandement américain et opèrent selon leur stratégie. Dans ce cadre, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a convoqué en Allemagne le groupe de contact de défense de l'Ukraine pour accroître les fournitures d'armes aux forces de Kiev. Le groupe est composé de plus de 50 pays, outre ceux de l'OTAN, Italie comprise, en font partie le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Israël, le Qatar. La quantité d'armes déversées en Ukraine est telle qu'elle rend nécessaire une forte augmentation de leur production. Par exemple, le Pentagone a fourni à l'Ukraine environ 800 000 projectiles d'artillerie de 155 mm pour les 126 obusiers M777 à longue portée qui, actionnée par du personnel ukrainien, tire sur des objectifs indiqués par le renseignement américain. Mais les États-Unis n'ont qu'une seule fabrique produisant de tels projectiles. Alors il fallait donc augmenter la capacité productive de ce site et en ouvrir d'autres. Parmi elles, la société italienne Leonardo, propriété à 30% du ministère du Développement économique, grimpée au deuxième rang des 100 plus grandes industries de guerre du monde, au premier rang dans l'UE. Elle a augmenté les recettes du secteur défense de 24% en une année, atteignant environ 14 milliards de dollars. Du secteur défense dérive 83% de son chiffre d'affaires. Leonardo est intégré dans le gigantesque complexe militaro-industriel américain mené par Lockheed Martin, constructrice du F-35, à la production duquel participe cette même société Leonardo. De cette façon, grandit le pouvoir du complexe militaro-industriel, un organisme tentaculaire qui, pour vivre et se développer, a besoin comme oxygène de la guerre, selon Malino Dunici. Les États-Unis lèvent complètement leurs restrictions sur les ventes d'armes à la République de Chypre, selon son militaire. Ainsi, selon Ypres, les deux chaises sur lesquelles est assis Erdogan se sont encore un peu plus éloignées. C'est une façon de parler très Ypres, et voici les détails avec OPEX, qui parle de façon très OPEX. Afin de favoriser un rapprochement entre la République de Chypre et la République turque de Chypre Nord RTCN, tout en ménageant les intérêts de la Turquie, garante de l'accès à la mer Noire via les détroits du Bosphore et des Dardanelles, les États-Unis décidèrent en 1987 d'imposer à Nicosie un embargo sur les armes, ce qui n'eut aucun effet si ce n'est celui de contraindre le gouvernement chypriote à se tourner vers d'autres partenaires pour équiper ses forces armées, dont la France, mais aussi et surtout la Russie. Cela étant, la présence d'importantes réserves de gaz naturel dans la zone économique exclusive de Chypre donne lieu à de nouvelles tensions avec la Turquie, tensions de nature à déstabiliser la Méditerranée orientale. Quoi qu'il en soit, et alors que la Turquie venait de lancer une offensive dans le nord de la Syrie contre les milices kurdes syriennes, tout en confirmant son intention d'utiliser des systèmes russes de défense aérienne S-400, le Sénat américain vota la levée partielle de l'embargo sur armes qui s'appliquait à Chypre depuis plus de 30 ans. En outre, l'administration Trump amorça avec ce geste dans le même temps un rapprochement avec Nicosie, notamment dans le domaine militaire. Cela fait partie de nos efforts pour renforcer nos relations avec des partenaires régionaux clés afin de promouvoir la stabilité en Méditerranée orientale, avait expliqué Michael Pompeo, alors chef de la diplomatie américaine. Évidemment, et même si la levée de cet embargo était partielle, les technologies sensibles en étaient exclues tant que la marine russe aurait un accès au port chypriote. Ankara condamna la décision américaine. Elle nuit aux efforts de réunification de Chypre, empoisonne la stabilité régionale et va à l'encontre de l'esprit d'alliance entre les États-Unis et la Turquie, fit valoir le ministre turc des Affaires étrangères. Quoi qu'il en soit, le 16 septembre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a levé totalement l'embargo sur les armes qui visaient Chypre, ce qui n'a pas manqué de saluer Nikos Anastasiades, le président chypriote. Il s'agit d'une décision historique qui reflète la relation stratégique en plein essor entre les deux pays, y compris dans le domaine de la sécurité, a-t-il commenté via les réseaux sociaux.